avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Alors faut-il continuer à baisser les bras sur une dure réalité? En Afrique subsaharienne, moins d'un quart de la population a accès à une source sûre d'eau potable et aux installations sanitaires de base. Pourtant, c'est le continent qui a enregistré ces 20 dernières années le plus gros volume d'investissement destiné à l'eau potable, alors qu'il affiche précisément le plus faible niveau mondial d'accès. Si l'eau est un droit humain, les investisseurs estiment que le service de l'eau doit trouver une forme de rentabilité. Mais alors dans ce cas, qui doit payer? Pour quel accès à l'eau? De nouveaux modèles émergent, de bornes fontaines avec cartes prépayées, mais sont-ils compatibles avec la complexité technique des services de l'eau et de l'assainissement? Les voisins, on attend vos témoignages. Parlez-nous évidemment de vos factures, de votre fournisseur, qu'il soit public ou privé, qu'il soit formel ou informel. Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités qui sont avec nous. Kevin Goldberg qui est dans le studio à mes côtés de RFI, directeur général de l'ONG Solidarité Internationale, engagé en faveur de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Bonjour Kevin Goldberg.
Bonjour.
Claire Grandadan est également avec nous à Berlin. Bonjour Claire Grandadan.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de projet au sein de l'ONG basée à Berlin, Water Integrity Network, une ONG qui justement lutte contre la corruption dans le secteur de l'eau. C'est un sujet qu'on aborde rarement. Thierry Barbotte, également avec nous, entreprise privée. Bonjour Thierry Barbotte.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe Odial Solutions, fabricant français d'équipements pour l'alimentation en eau potable. Et vous avez lancé Uduma, prestataire de services d'eau, avec une solution assez novatrice. Évidemment, nous en parlerons. Nous serons aussi en ligne avec le maire de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, Bourahima Sanou. Et bien sûr, vous nous appelez 33 7 64 45 51 41. Quelques messages, vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer sur ce sujet qui vous touche en grand nombre, l'accès à l'eau. Claude à Abidjan nous dit « Il ne faut pas minimiser le problème. Ici en Côte d'Ivoire, même à Abidjan, où tous les riverains sont censés avoir accès à l'eau potable, je vous jure que l'eau ne coule pas du robinet de près de la moitié des ménages. En Afrique en général, l'accès à l'eau potable est un luxe. Dans notre pays, nous dit Annick, à Madagascar, à Antananarivo, la capitale, l'eau devient une denrée rare. Nous devons nous lever à 3h du matin pour remplir les bidons dont nous disposons, et ça l'a fait tous les deux jours, chose qui ne s'est jamais produite depuis des années. Vous nous appelez en direct, on a envie de dialoguer avec vous, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Josué est en ligne avec nous en direct de Kinshasa en RDC. Bonjour Josué.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les invités. Voilà.
Vous êtes un auditeur pas vraiment satisfait de votre accès à l'eau à Kinshasa.
Ah oui, hein, le problème de l'eau, l'accès à l'eau à Kinshasa, c'est un problème qui date de plusieurs décennies en tout cas. Mais on a l'impression que ça va de mal en pis et ça ne s'améliore pas en tout cas. L'eau devient de plus en plus une denrée rare à Kinshasa, et si déjà Kinshasa c'est comme ça, on se demande à quoi ça ressemble l'intérêt du pays. Donc, pour avoir de l'eau, il faut parfois se lever très tôt le matin, parfois il faut laisser les robinets ouverts dans l'espoir, on croise les doigts pour que l'eau coule peut-être la nuit et que l'on ait de quoi puiser quelque chose comme ça le matin. Ou il faut parfois
Quand vous parlez de robinet, là vous parlez du robinet qui achemine l'eau de la régie des eaux.
Exactement, oui. Le robinet qui achemine l'eau de la rivière des eaux, donc on peut laisser, parce qu'il est dans la parcelle et tout, on peut les laisser ouverts avec un récipient, je ne sais pas, peut-être on met un tuyau et peut-être dans un tonneau, un tonneau, on peut laisser ça comme ça, bon, dans l'espoir que l'eau peut couler. Mais vous pouvez rester là, vous pouvez faire, peut-être ça peut aller à une semaine, ça peut aller à deux mois sans eau, l'eau ne coule pas. Donc il faut développer des stratégies.
Dans ces cas-là, vous êtes facturé, vous n'êtes pas facturé quand l'eau ne coule pas pendant deux mois.
Là, les factures, elles peuvent venir... là, vous avez des factures. Donc, ça se passe comment? Vous recevez des factures et subitement, c'est parce que l'eau a coulé peut-être une fois et la facture vient. Et après, ça ne coule plus.
Et vous ne savez pas à quoi... Dans ces cas-là, vous ne savez pas à quoi correspond la facture, c'est ça? Vous ne savez pas vraiment ce qui a été consommé
La facture, généralement, les factures viennent, elles sont, je peux dire, elles sont forfaitaires parce qu'on ne tient pas vraiment compte même du compteur qu'on a sur le robinet, là.
Ah oui.
Elles sont un peu forfaitaires et tout, voilà. Et quand la facture vient comme ça, elles avoisinent les 45, 30 dollars ou quelque chose comme ça.
Ah oui.
Et une fois que l'eau coule, en tout cas, les agents de la régie des eaux débarquent et vous avez les factures directement. Donc, on peut vous gâter là pendant, je ne sais pas, deux jours et après... Bon débarras. Vous pouvez rester pendant des mois, l'eau ne coule pas. Et là, quand c'est en saison sèche, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Il faut développer des stratégies. Et à Kinshasa, aujourd'hui, généralement, c'est le système de forage qui bat le plein.
Oui.
Chacun creuse le sol pour atteindre une chose.
Bon. Ah, Josué, on est en train de vous perdre. Là, si vous êtes à l'intérieur d'une maison, il faut sortir. Là, il y a un petit problème de connexion au réseau mobile. Allez-y, Josué.
Allô ?
Oui, allez-y.
Là, c'est bon ?
Oui, c'est bon.
Oui, je disais, chacun développe des stratégies pour essayer de forer le sol, pour faire monter de là la surface. Et à partir de là, il peut essayer de distribuer à ses voisins, les gens qui avoisinent sa maison. Donc, il peut distribuer de l'eau, mais il ne distribue pas ça gratuitement, parce qu'il faut faire, il fait payer. Donc, le bidon,
combien?
C'est à 100 francs, c'est à 200 francs. Ça dépend, mais généralement, c'est à partir de 100 francs, à 200 francs congolais. Donc, c'est moins d'un dollar, en tout cas, c'est moins d'un dollar.
Mais donc, moins d'un dollar pour combien de litres,
hein? 25 litres, le bidon de 25 litres, c'est déjà à 100 francs, le bidon de 25 litres, voilà. Et les autres bassins, les seaux et tout. Donc, c'est quand même... Bon, les gens peuvent s'approvisionner. Ça aide quand même. Ça essaie de dépanner les gens d'une certaine manière. Bien que c'est toujours compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand il n'y a pas de courant... Parce que ces trucs-là, le forage, ça fonctionne avec le courant électrique. Alors, quand il n'y a pas de courant, il faut le groupe électrogène et tout ça. Alors,
c'est la double peine, hein, quand il y a... délestage d'électricité et déjà des problèmes d'acheminement de l'eau. Merci beaucoup, Josué, pour cet état des lieux. Effectivement, inquiétant, Kinshasa est l'une des plus grandes métropoles du continent, avec entre 15 et 20 millions d'habitants, et puis une des situations les plus critiques d'accès à l'eau, alors que la RDC ne manque précisément pas d'eau. Neuville, qui a 20 ans, qui est à Matadi, dans le Bas-Congo, nous dit ici depuis novembre 2020, nous n'avons pas d'eau, pourtant la régie des eaux continue de nous facturer de l'eau que nous n'avons pas consommée. Le prix est de 1,86 euros le mètre cube. Écoutez aussi le témoignage de cet étudiant, un Mbujimai, dans le Kasaï oriental, au centre de la RDC.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. C'est Fernand, je suis étudiant. J'habite Mbujimai, en République démocratique du Congo. Ici, il faut noter que de toutes les denrées vitales, l'eau est la plus chère. Selon qu'on est dans une commune ou dans une autre, il est des moments où un bidon de 20 litres se vend entre 500 et 1000 francs, parfois entre 500 et 1500. Toutefois, chacun est contraint à se rendre à la borne fontaine en gardant l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Ça peut être la bagarre. Alors, la pluie reste salvatrice pour bon nombre de ménages. Et ce qui est fort étonnant et frappant, c'est qu'au niveau des politiques publiques, aucune action n'a su remédier à cette galère.
Kevin Goldberg, on le voit bien, les prix qui sont cités sont des prix astronomiques, hein, plus chers que 1000 litres d'eau en France, hein, qu'un mètre cube d'eau en France, alors que précisément les ressources des habitants sont bien moindres. En quoi cette situation illustre le problème global de l'accès aux services de l'eau sur ce continent ?
Alors, la question de l'accès à l'eau sur le continent africain, c'est la question finalement globale de l'accès à l'eau de personnes qui en ont besoin pour l'usage quotidien. Et l'usage de l'eau, il est divisé en différents utilisateurs. Hein. Quand on regarde sur la globalité de l'usage de l'eau, on a à peu près 70% qui va vers l'agriculture. On a 15% qui va vers l'industrie, 12% qui va vers les ménages. Et donc, c'est une répartition de cette eau et la façon dont on peut l'utiliser. Évidemment, les ménages sont les premiers concernés, ceux qu'on entend, c'est bien normal, les citoyens revendiquent leur droit à l'eau et c'est une évidence. Ce droit à l'eau, c'est un droit universel de l'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est aussi un objectif du développement durable, l'objectif numéro 6, qui vise à ce qu'en 2030, l'intégralité de la population mondiale ait accès à cette denrée qu'est l'eau, qu'on devrait avoir comme étant un bien commun, accessible.
Oui. Alors que là, on a un quart de la population sur le continent subsaharien. Donc exactement. On est loin de réaliser l'objectif de 2030.
On en est très loin, je dirais même on recule. On est sur une année 2021 dans laquelle on vit les suites de cette crise, cette pandémie mondiale qu'est le Covid. Cette crise, elle a amené à ce qu'il y ait un désengagement de l'investissement sur les sujets de l'eau. On a perdu quasiment 1 milliard d'euros d'investissement, ce qui est d'une part une somme tout à fait importante. Et ça suppose derrière, du coup, moins d'infrastructures qui sont soit réhabilitées, soit créées. Et donc, un problème de l'accès qui continue à se dégrader.
Quand vous dites qu'on a perdu 1 milliard d'investissement, comment ça se fait ? Où est passé
très concrètement, l'argent ? Alors, c'est très simple, on a une réorientation des choix économiques en cette période de crise et globalement aussi un PIB mondial qui connaît une forte décroissance. Oui. Et donc, l'eau est souvent le parent pauvre de ces politiques d'investissement. Vous avez mentionné tout à l'heure de façon très juste que sur le continent africain,
il y a eu beaucoup d'argent.
Il y a eu de l'investissement qui est fait. Cependant, c'est un investissement qui est assez inégal d'un pays à l'autre. Et donc, un des points sur lesquels on peut aujourd'hui insister, c'est qu'on a besoin d'une part, évidemment, qu'au niveau de la politique nationale, mais aussi locale, l'eau fasse l'objet d'un niveau d'investissement suffisant. Et ça suppose donc un suivi et une comparaison pour s'assurer que cette question de l'eau, elle est bien au sommet de l'agenda politique. Donc évidemment, ça c'est la question de l'infrastructure, mais les infrastructures ne suffisent pas. Et on le voit bien d'ailleurs dans les commentaires que font vos auditeurs aujourd'hui. Ce sont des gens qui aujourd'hui habitent dans les endroits où on a des réseaux d'eau, on a de l'adduction,
vieillissant, etc. Des réseaux d'eau et de l'adduction vieillissantes avec des tuyaux qui sont mal entretenus, beaucoup de fuites d'eau et des régies, là en l'occurrence c'est la régie des eaux, mais qui ne fournissent pas un accès à l'eau satisfaisant pour les habitants.
Et ça, c'est finalement la problématique de la pérennité des infrastructures. Et ça revient à la question de comment est-ce qu'on met en place un système qui, d'un point de vue financier, finalement, trouve sa forme de péréquation. Ce qu'on a là aujourd'hui, ce sont des prix de l'eau qui sont bien trop chers, qui rend l'eau inaccessible pour une question de tarif, et qui, finalement, vient à l'encontre de la logique selon laquelle l'eau pourrait être un bien qui serait autofinancé avec une part avec les gens qui concrètement payent pour cet accès à l'eau et qui permettent du coup à la régie de l'eau d'exploiter le service. Finalement, ça ne fonctionne pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'on a d'abord différents types de populations, certaines qui sont plus ou moins solvables. Et donc, une des problématiques va être comment va-t-on permettre l'accès à l'eau aux personnes qui ne peuvent pas payer ce service à ce prix-là. Et puis ensuite, effectivement, comment est-ce que tout ça rentre dans une logique d'investissement avec une rentabilité qui ne doit, je crois, pas être exponentielle sur un service qui concerne avant tout un droit humain.
Claire Gandadan, votre ONG Water Integrity, travaille sur les problèmes de gouvernance de l'eau. Quels sont les problèmes de gestion des services de l'eau ? Parce qu'on a l'impression que les investissements dans le secteur de l'eau, c'est un peu comme un puits sans fond.
C'est vrai. Et en fait, c'est comme tous les secteurs. Il y a des problèmes de corruption, par exemple, au niveau de la passation de marché, des achats qui font partir beaucoup, beaucoup d'argent dans des poches qu'on ne connaît pas. Mais il y a différents problèmes aussi de façon très simple. Ça peut être quelqu'un qui paye des pots de vin pour que son compteur soit manipulé. Ça peut être des choses toutes petites. Quelqu'un qui ne peut pas se permettre de l'eau du tout et on lui propose de payer en nature ou autrement. On voit beaucoup de choses différentes dans le secteur à tous les niveaux et c'est une raison pour laquelle les investissements ne suivent pas.
Ouais. Ce que vous dites, c'est qu'il peut s'agir par exemple de détournement de biens publics, de biens qui seraient géré par les régies publiques d'eau.
Oui, C'est dans tous les niveaux, et que ce soit public, privé, on voit des exemples à différents niveaux. Il y a certains cas que l'on connaît où des sommes investies par une institution publique ont disparu ou ont été investies dans des projets qui n'existent pas ou des projets qui n'ont jamais vraiment commencé ou qui n'ont jamais terminé, des infrastructures qui ont été prévues mais qui ne fonctionnent pas. On voit différentes choses.
Est-ce que le secteur de l'eau et sa gestion est un secteur particulièrement touché par ce qu'on appelle pudiquement la déperdition ou la corruption, comme vous voulez ?
En partie, oui. Bien sûr, c'est quelque chose qui arrive dans tous les secteurs, mais le secteur de l'eau a la particularité d'être particulièrement compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs qui prennent part. C'est un secteur qui touche à l'agriculture, à l'environnement, à l'éducation, à la santé. Tous ces acteurs sont impliqués. C'est un secteur aussi connu pour des financements qui sont très complexes, qui viennent de différentes sources. Peu de pays ont vraiment une idée complète de tous les financements qui rentrent dans le secteur et comment ils arrivent aux habitants. Et en plus, c'est très complexe techniquement. Ça demande des infrastructures, des choses techniques que beaucoup de gens ne suivent pas, ne comprennent pas. Donc, ça fait des opportunités de corruption plus grandes. Et surtout puisque les gens en ont besoin. Donc, quand on en a besoin, on paye.
Et est-ce que votre ONG, Water Integrity, est parvenue à chiffrer l'ampleur de ces détournements d'investissement dans les services de l'eau?
C'est très difficile à chiffrer, évidemment, parce que c'est principalement caché. C'est un acte caché. On sait qu'au moins 10% des investissements disparaissent. Et il y a beaucoup d'études récentes qui disent qu'au moins 15% de pertes qui se font. On pourrait réduire de 15% des grandes pertes en faisant des mesures pour mieux protéger les passations de marché et pour mieux réguler les passations de marché. Mais le problème n'est pas que financier, ça va vraiment au-delà. Avec la corruption dans le secteur, on fait en sorte que la capacité du secteur, que les compétences des gens qui travaillent dans les institutions n'est pas aussi élevée qu'elle pourrait l'être. Si on emploie notre copain plutôt que celui qui a les compétences pour, on réduit la compétence entière du secteur. Oui. On est aussi à un impact environnemental énorme. Quand une entreprise ou quand quelqu'un peut payer un pot de vin pour éviter les sentences et pouvoir polluer ou laisser ses déchets comme il le veut, on a un problème beaucoup plus important que juste un problème financier, sans parler du social ou des gens qui doivent payer leur personne pour avoir un peu d'eau. Ça va beaucoup plus loin que quelques chiffres.
Est-ce que vous pensez que la corruption et le système D associé participent à décrédibiliser aussi l'efficacité des services de l'eau et donc ne poussent pas la population à payer ses factures d'eau?
Tout à fait. C'est aussi un problème d'intégrité plus grand, de gouvernance, quand personne ne sait où pouvoir réclamer quoi que ce soit. Il n'y a pas de système clair pour savoir où se plaindre ou comment dire quelque chose sur sa facture. Et en plus, on sait que quelqu'un a une nouvelle voiture ou que on a entendu parler de ci, de ça. Ces histoires se propagent. Et forcément, la confiance n'est pas là.
Vous restez en ligne avec nous.
Et c'est le même pour les investisseurs qui, eux, cherchent les investissements sur lesquels ils peuvent se fier. Et s'ils voient des problèmes de corruption, c'est un problème.
Ouais, ce qui peut expliquer aussi une baisse des investissements. Vous restez bien sûr en ligne avec nous, hein, Claire Grand-Adam. J'ai lu quelques témoignages d'urbains qui disent que, sur le papier, dans les villes en Afrique, 90% de la population est censé avoir accès à l'eau et que, évidemment, ça n'est pas le cas. Il faut aussi qu'on parle d'une situation très différente tout de même dans les villages. Écoutez le message de Mariama au Niger qui nous parle d'accès à l'eau dans son village via des puits dans la région de Tawa, dans le sud-ouest du Niger.
Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Donc l'eau est tellement sale. Avant la réhabilitation, c'est cette eau que les villageois buvaient. Ça veut dire qu'ici, chez nous, principalement dans les pays du Sahel, on a des vrais problèmes d'eau. L'État s'occupe plus des villes que les villages. Donc, le plus souvent, les actions entreprises dans les villages, ce sont les ONG qui les font. Donc, l'État, lui, il reste plus dans les villes. Donc, dans les villes, ils construisent des châteaux, ils font des canalisations, tout ça là. Donc, le problème d'eau se trouve plus dans les villages.
Alors, on a abordé la situation en zone rurale. Thierry Barbotte, votre entreprise, justement, est spécialiste de l'eau, de l'accès à l'eau potable dans les zones isolées. Mariama nous disait, c'est l'affaire des ONG, ça n'intéresse pas les gouvernements. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, il faut bien reconnaître effectivement que depuis 40 ans, ce secteur de l'hydraulique rurale est financé sur des dons par les grands bailleurs de fonds internationaux et c'est plus financé sur un modèle d'assistanat que sur un modèle de développement. Et c'est bien là le problème aujourd'hui, c'est que on arrive aux limites du modèle où on n'a plus les mêmes moyens, on n'a plus les mêmes ambitions en termes de financement du secteur de l'eau rurale, mais pourtant les gens sont toujours là, il y en a de plus en plus. Et comment on fait pour que c'est garantir l'accès à l'eau potable de ces populations? Et c'est bien là-dessus qu'on s'est penché,
Et votre
nous,
entreprise,
en
d'ailleurs, Odial Solutions, hein, est prestataire pour ces politiques d'assistanat, comme vous dites, hein, puisque vous avez installé 110 000 pompes qui apportent de l'eau à 50 millions de personnes en Afrique. C'est-à-dire que vous êtes financé par l'aide publique au développement en tant qu'équipementier vous-même.
C'est ça. Nous, historiquement, on a fourni les pompes pour équiper les infrastructures de forage, mais on a toujours essayé, dès le départ, de mettre en place des systèmes de maintenance avec du SAV, de la formation d'artisans,
Service
parce
après-vente.
que les voilà, service après-vente, parce que les pompes, bien évidemment, si elles sont utilisées, elles tombent en panne, et quand elles tombent en panne, il faut pouvoir les réparer localement. Donc ça, c'était déjà une première approche, mais très vite, on s'est rendu compte que c'était perfectible et que finalement, on n'atteignait pas le taux d'utilisation, le taux d'opérationnalité qu'on cherchait. Et qu'il fallait absolument impliquer les gens, non seulement dans l'utilisation, évidemment, c'était l'objet, mais aussi dans la gestion et notamment dans le financement du service. Et c'est là où toute une réflexion s'est mise en place à notre niveau pour dire, je propose un accès aux populations. L'eau peut être considérée comme gratuite en tant que telle, mais le service de l'eau, lui, est payant. Et le service, qui le paye, ben c'est celui qui en bénéficie, à condition d'avoir, évidemment, de mettre en place des systèmes qui sont abordables et soutenables par les populations.
Alors, vous êtes en train de tester le système que vous avez créé, Oudouma, hein, au Burkina Faso et au Mali en zone rurale. Comment ça fonctionne concrètement?
Alors, le principe est assez simple. D'abord, c'est de dire, je paye l'eau que je consomme. Donc, c'est d'apporter aussi en milieu rural la notion de paiement au volume. Je consomme beaucoup, je paye beaucoup. Je consomme pas beaucoup, je paye pas beaucoup. Et non plus le système du forfait qui est totalement inéquitable en fonction de la taille des familles, par exemple. Donc, après, il y a en milieu rural, on a cette problématique de distance, d'éloignement, de manque d'infrastructures, notamment bancaires. Et donc, c'est la gestion des flux financiers. Faire payer les gens, c'est une chose. Et comment ils payent et comment garantir qu'il n'y a pas de perte en ligne. Et donc, ce qu'on a défini, c'est qu'avec le développement des technologies de téléphone portable, on a mis en place un système de paiement par carte qui se recharge à travers justement toutes ces technologies de téléphone portable et qui permettent aux populations de payer non pas en cash à chaque fois qu'elles vont chercher de l'argent, mais avec leur carte qu'elles ont rechargée au moment où justement elles avaient une disponibilité financière personnelle.
Donc une carte prépayée, vous allez à la pompe ou à la borne fontaine et vous tirez l'eau en fonction de ce qui est prépayé sur votre carte, en fonction de l'argent qu'il y a sur votre carte.
Exactement. S'il y a du crédit, vous pouvez prendre de l'eau. S'il n'y a pas de crédit, vous ne pouvez pas prendre d'eau. Il faut aller recharger la carte.
C'est un système qui s'inspire un peu de la téléphonie mobile, finalement.
Complètement. Complètement. Et qui doit beaucoup, justement, au développement de cette technologie en Afrique, puisqu'il faut quand même reconnaître que le téléphone mobile en Afrique, il s'est beaucoup plus développé qu'en Europe, en tout cas beaucoup plus vite. Et surtout, le paiement par téléphone mobile, lui, c'est alors là beaucoup plus développé qu'en Europe.
Kevin Goldberg, que vous inspire ce type de modèle économique ? Juste peut-être, ce modèle, il a été pensé pour que vous, en tant que prestataire entreprise privée, vous ne soyez pas déficitaire.
Absolument. Nous, on est entreprise privée, donc on doit gagner de l'argent. Mais j'ai envie de dire, le profit est la seule garantie de durabilité. Si une entreprise gagne de l'argent, raisonnablement, comme le disait Kevin tout à l'heure, à partir de ce moment-là, on peut s'inscrire dans la durée. Le problème de la subvention ou de l'apport ponctuel pour combler un déficit, c'est par définition pas durable.
Ça veut dire que là, les habitants, dans ce qu'ils payent en zone rurale sur ce programme Oudouma, il n'y a pas du tout d'argent public. Il n'y a pas un litre d'eau qui est subventionné. Il n'y a rien.
Non. Les infrastructures
ont été financées. C'est 100% privatisé, donc.
Oui. Et le financement des coûts d'exploitation est assuré par le tarif de l'eau.
Kevin Goldberg.
Oui, alors ce que dit M. Barbotte est très intéressant en termes de système.
Je précise quand même que les tarifs, les tarifs que vous proposez pour Oudouma sont beaucoup moins chers que ce que nous ont dit nos auditeurs, par exemple en RDC, hein, puisque vous êtes aux alentours de moins d'un euro pour 1000 litres d'eau. Hein, c'est bien ça, Thierry Barbotte.
En français, CFA le mètre cube.
Oui, c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que ce que nous ont signalé nos auditeurs dans d'autres pays.
Alors, et donc, ce type d'initiative qui vient du privé et qui vient apporter des réponses nouvelles, innovantes et véritablement intéressantes, c'est aussi intéressant du point de vue d'une ONG comme la nôtre. Solidarité internationale, notre travail, c'est d'agir auprès des populations qui sont victimes de chocs, donc d'un conflit, d'une épidémie, d'une catastrophe naturelle. Et je dirais que la question de l'intervention des ONG, qui parfois peuvent avoir une place prépondérante dans l'installation dans les zones rurales de ce type d'équipement, il a raison, M. Barbotte, de la poser, puisque finalement, la question est celle de la durabilité de ces installations. Combien de temps est-ce que le puits, le forage va fonctionner? Combien de temps est-ce que la population va pouvoir aller chercher cette eau et combien de temps cette eau va être saine, propice à la consommation? Nous, notre regard, c'est de se dire finalement, on va cibler en tant qu'ONG les populations qui subissent véritablement un choc et qui ont besoin, face à ce choc, de retrouver des moyens de survie puis de développement. Et donc, si on a un système dans lequel l'accès à l'eau se fait dans un cadre où les personnes payent pour cet accès et permet un accès sain, finalement, on va avoir un risque, c'est celui de populations qui vont devoir se déplacer. Aujourd'hui, si on parle par exemple du Burkina, on a 2,7 millions de personnes qui sont en situation de crise humanitaire, 1 million de personnes qui sont déplacées, et des villes sur lesquelles on a parfois jusqu'à 40% de la population qui arrive dans une ville, cette ville n'ayant pas les capacités d'accueillir toutes ces personnes-là pour simplement qu'elles aient accès à l'eau. Donc, ce que nous, on va pouvoir faire en tant qu'ONG, c'est simplement veut dire aider cette personne pour qu'elle puisse retrouver des capacités à finalement retrouver des moyens d'existence, un peu de capacité financières et donc derrière peut-être réintégrer des systèmes classiques d'accès à l'eau en payant quand ils le pourront pour l'accès à l'eau du quotidien.
Oui, alors vous restez bien sûr avec nous, Thierry Barbotte. On va rediscuter de ce modèle. Les voisins, on attend vos témoignages, vos factures, votre fournisseur, qu'il soit public, privé, formel, informel, en zone rurale, dans les villes. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, on sera en ligne avec le maire de Bobo-Dioulasso, que nous appelons et qui va nous expliquer quelle est la situation dans la deuxième ville du Burkina Faso.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Monsieur Sanou Bouarima Sanou, bonjour monsieur.
Bonjour Emmanuel.
Vous
bonjour
êtes le... Merci d'être en ligne avec nous en direct. Vous êtes le maire de Bobo-Dioulasso, donc deuxième ville du Burkina. Plus d'un million d'habitants, largement.
Oui, 1 350 000 environ. Voilà.
Là, vous comptez la métropole de Bobo-Dioulasso, si on peut dire?
Oui, c'est vrai, Bobo-Dioulasso, comme on l'a dit, c'est une ville à statut particulier, comme Ouagadougou. La ville dit c'est la deuxième ville. Alors, donc, nous avions, je dirais, une situation hybride parce que vous aviez la question de l'eau en milieu urbain et nous avions un milieu rural qui est assez vaste, composé de 36 villages rattachés. Alors, il faut dire que la question de l'eau en ville, il y a une office, l'Office national de l'eau et de l'assainissement.
L'ONEA.
L'ONEA qui reçoit la maîtrise d'ouvrage déléguée. Alors, en grande partie, en ce qui est du milieu rural, sauf peut-être quelques 3-4 villages. Le reste, bien sûr, c'est la commune qui, avec les partenaires, dont l'État et d'autres partenaires qui interviennent, pour la plupart du temps avec des forages pour traiter la question de l'eau dans ces milieux-là.
Mmh. Alors, votre ville est confrontée aux pénuries d'eau. Alors, bien sûr, il y a le fait qu'il n'y a pas de raccordement du tout dans les quartiers périphériques non lotis où l'eau n'arrive pas finalement à... L'accès à l'eau n'arrive pas à suivre la croissance urbaine. Hein. Les branchements vont arriver, mais ils vont arriver plus tard que l'installation des habitants. Mais il y a aussi des coupures d'eau dans des quartiers qui sont raccordés à l'eau. Pourquoi ?
Oui, véritable calvaire parce que, comme vous l'avez relevé, la production de l'eau, elle est fondamentalement confiée à l'Office national de l'eau, qui essaie de faire un pompage à quelques kilomètres du centre-ville, qui essaie de desservir. Vous l'aviez dit, l'étalement de la ville à une vitesse un peu chigrée, exponentielle, ne le permet pas. Et la question aussi des règles de l'urbanisation, d'aller jusqu'à dans les quartiers périphériques qu'on appelle communément ici, les non-lotis, mais vous aviez là où même l'aménagement a été bien fait avec des robinets, de l'ENEA. Mm-hmm. Fréquemment, vous aviez 24 et 48 heures, même voir au-delà qu'on n'a pas l'eau. Et les habitants, les ménages sont obligés de se réveiller, rester en veille pour voir quelques gouttes d'eau. Mm-hmm. Donc vous aviez même des quartiers qui... J'allais dire plus ou moins huppés qui sont dans cette situation-là.
C'est votre cas, vous-même, en tant que maire, dans votre propre habitation ?
Oui, bien sûr, le maire, moi j'habite à quelques encablures de ces zones non-lotis. Alors, en fréquence, nous n'avions pas de l'eau dans les robinets. Bon, moi-même, j'étais obligé de me faire un forage. C'est l'autre point qu'il faut. La plupart maintenant des ménages, ceux qui se trouvent un peu avec un peu de moyens, essayent de faire, bien sûr, des forages pour pallier en tout cas cette pénurie fréquente d'eau et essayer aussi de temps en temps, quand il y a une rupture avec l'ONEA, bien sûr, de les mettre à la disposition des ménages.
Mais vous-même, vous avez fait un forage, monsieur le maire, parce que vous êtes un peu à l'extérieur de la ville, au-delà des zones non loties, comme vous avez dit vous-même, ou bien parce que vous êtes dans un quartier qui est raccordé à l'ONEA, mais où l'eau n'arrive pas tout le temps.
Oui, moi, je suis dans un quartier loti, bien sûr, mais l'eau, comme je l'ai relevé, avec une fréquence très grave de rupture d'eau dans les robinets. Mmh. C'est la même chose avec le secteur quand vous quittez Oradougou à l'entrée, à gauche comme à droite, qu'on appelle le secteur 24 communément, et le secteur 25, et bien sûr d'autres secteurs aussi qui sont éloignés du centre. Mmh. La rupture est permanente.
Quel est le pouvoir d'un maire sur la gestion de l'eau ?
Oui, bien sûr. Je disais tantôt que quand on prend la réglementation, l'ONEA reçoit bien sûr en termes de devoir déléguer la gestion de l'eau en plein milieu urbain. Maintenant, le maire, bien sûr, qui est le premier responsable, j'allais dire, en tout cas, de fournir ses services à la population. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Bien sûr, nous essayons de faire, bien sûr, du lobbying sur l'ONEA, faire en sorte que les branchements puissent aller un peu partout, c'est-à-dire viabiliser tous les quartiers. Mmh. Et également faire un lobbying pour qu'on puisse avoir un grand pompage de sorte qu'on évite les ruptures. Bien sûr, nous-mêmes, nous sommes, en tant que maire de la ville de Bobo-Dioulasso, membre de l'association des municipalités, nous sommes au conseil d'administration comme observateurs. Mmh. Alors, au quotidien, nous essayons de plaider. Parce que à chaque fois qu'il y a rupture de l'eau, bien sûr, dans les robinets, les populations se retournent en premier lieu vers le maire. Donc, le maire doit non seulement travailler de concert avec cet office, faire du lobbying, mais nous essayons nous-mêmes de faire des forages. Je parlais tantôt des milieux ruraux. Nous avions constamment des forages que nous essayons de faire pour mettre à la disposition des populations. Et fondamentalement en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. La commune de Bobo-Dioulasso, en 2018, nous avions foré, par exemple, 43 forages à l'intérieur de la ville sur un projet que nous avions fait exceptionnellement avec une ONG.
L'eau est tarifée dans ces cas-là, le même tarif que pour l'ONEA quand l'eau vient des forages ?
Bon, il n'y a pas une grande différence. La différence est qu'à l'ONEA, on tourne le robinet, ça vient, mais dans un forage, vous êtes obligé de faire de l'effort physique.
Oui.
Et vous-même, après, vous payez.
Donc, mais est-ce que la politique tarifaire de l'eau est une partie du problème et une partie de la solution ou pas au Burkina Faso?
Non, moi, je ne pense pas que ça soit lié, bien sûr.
Pour vous, c'est juste un problème technologique, là, d'investissement pour faire arriver l'eau. Il n'y a pas de problème avec les tarifs?
Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ces derniers temps, bon, ça, il y a eu une incompréhension aujourd'hui avec l'ONEA. Nous trouvions que il y a des factures qui arrivent incompréhensibles. Vous pouvez recevoir, par exemple, le mois. Parce que là, l'ONEA a décidé de faire la tarification sur 2 mois, par exemple. Et vous retrouvez avec 19 000 pour 2 mois. Bon, techniquement et logiquement, il y a un problème. Donc, actuellement, la population souffre énormément. Elle ne comprend plus la facturation. C'est vrai que l'Office national de l'eau essaie de faire de la communication, mais c'est difficilement compréhensible.
Ouais. Et parallèlement, ces régies d'eau se plaignent d'avoir du mal à récupérer le paiement de leurs factures, précisément parce que les habitants, les usagers ne comprennent pas leurs factures et ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer, alors qu'ils ont l'impression que quand ils tournent le robinet, l'eau ne coule pas. On est quand même dans un système où le dialogue est tout de même compliqué. Thierry Barbotte, vous dites souvent, en tant que chef d'entreprise, que le tarif de l'eau, ça ne se décrète pas, ça se calcule.
Absolument. Moi, je suis un peu en désaccord avec ce que vient de dire M. le maire. Je pense que le nœud du problème est justement le tarif. Parce que à partir du moment où vous, à chaque mètre cube d'eau produit, quel que soit le producteur, vous perdez de l'argent, bien évidemment, vous n'êtes plus dans une situation durable. Vous ne pouvez plus très vite, vous ne pouvez plus continuer à fournir l'eau, le service se dégrade, donc les gens sont mécontents, donc ils veulent, déjà ils payaient pas forcément le tarif nécessaire, mais ils payaient un peu, là ils ne payent plus puisque le service n'est pas à la hauteur, et c'est un cercle infernal. Si à l'inverse, on a un calcul qui nous permet de couvrir les charges d'exploitation et d'autoriser un peu de bénéfices de manière à ce que l'entreprise puisse réinvestir, là on est dans un cercle vertueux. Mais d'une situation à l'autre, le tarif ne sera pas le même, parce que les situations de ressources en eau, les moyens technologiques, les exigences techniques ne sont pas les mêmes. Et c'est l'intérêt d'élargir les périmètres pour pouvoir faire de la péréquation entre les secteurs qui sont plus avantagés d'un point de vue ressources en eau que ceux qui sont plus désavantagés. Et là, on arrive à avoir quelque chose qui permette d'avoir un service de qualité et abordable aux populations rurales.
Alors, le tarif que vous pratiquez d'ailleurs au Mali et au Burkina en zone rurale, c'est-à-dire moins d'un euro, autour de 500 francs CFA, le mètre cube d'eau, c'est-à-dire les 1000 litres d'eau, c'est un tarif, bien que vous vous adressiez à des usagers qui n'ont pas beaucoup de ressources financières, hein, Thierry Barbotte, on est d'accord. Ce tarif, comment il est accepté par la population ?
Bien, il est accepté assez simplement parce que c'est quelque chose de commun dans la sous-région, sans que ce soit forcément formalisé ou officialisé. Les gens ont l'habitude de payer l'eau ce prix-là, voire plus. Donc là, de rentrer dans un système professionnel où c'est transparent et où on facture, j'ai envie de dire, le même prix que ce qui se fait habituellement dans le secteur informel, c'est tout à fait accepté par les populations. Après, c'est la problématique, elle est là encore un peu politique, c'est que c'est le prix de l'eau est un argument électoral.
Ouais. Kevin Goldberg et Claire Grandadan, est-ce qu'il faut un tarif économique de l'eau ou un tarif politique de l'eau? Claire Grandadan, qu'est-ce que vous en pensez? Vous représentez l'ONG Water Integrity qui travaille sur la bonne gouvernance de l'eau.
Il faut les deux. La question de la rentabilité des fournisseurs d'eau est cruciale, mais le fait que l'eau est un droit et que les gens qui ne peuvent pas payer doivent pouvoir avoir de l'eau est également très importante. C'est normal que de ce fait, il faut qu'on puisse donner de l'eau à ceux qui en ont besoin, à s'assurer que le service est bien en place. Et ça, ça a une dimension politique. Mais forcément, il faut que les prestataires de services rentrent dans leurs frais et voir qui peut payer mais ne paye pas et quels sont Est-ce que les charges d'opération pour ces prestataires de services sont-elles justes ou pas ?
Et là, Kevin Goldberg, il existe dans les régies d'eau publiques ou semi-publiques des tarifs dégressifs en fonction des revenus des personnes, me semble-t-il. Pas partout, mais ça existe.
Alors évidemment, là, on va être sur des politiques qui sont très variables d'un État à l'autre, voire parfois d'une municipalité à l'autre. Moi, j'aurais tendance à penser que finalement, on a besoin d'un système économique dans lequel l'eau, comme son acheminement a un prix, que l'eau finalement est payée, elle est payée au juste regard des capacités financières des personnes qui vont en avoir l'usage. Et donc parfois ces capacités, elles sont nulles. On a parfois des personnes qui n'ont aucun moyen de payer pour l'eau et ces personnes malgré tout doivent pouvoir avoir accès à l'eau. Donc là on est bien dans une question qui est évidemment fortement politique. Pour autant, nous en tant qu'ONG, quand on intervient sur, concrètement sur un village ou une ville pour venir soutenir les régies d'eau dans la mise en place ou la réhabilitation de leurs infrastructures, on va avoir à l'esprit le fait que pour que notre intervention soit pérenne, il faut qu'on vise aussi à ce qu'on ait déjà une forme d'engagement communautaire autour de cette réhabilitation, donc de faire en sorte que les habitants, les citoyens de la ville comprennent l'intérêt du projet, y adhèrent et donc soient sensibilisés au fait qu'à un moment, on va leur demander effectivement de payer pour l'accès à l'eau et puis que petit à petit, ce paiement contre service d'accès à l'eau se généralise. Donc par exemple, au Burkina, nous avons des projets dans les villes de Kongoussi ou Djibo, donc plutôt au nord, dans des endroits où on a beaucoup de déplacés du fait des conflits dans la zone sahélienne, et bien on a nos projets vise à ce qu'à la fin du projet, on ait à peu près 70% des gens qui payent. Donc un ratio nettement plus fort que ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
On vous donne bien sûr la parole depuis le début de cette émission, 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez nous appeler pour nous parler du prix de l'eau, de l'accès à l'eau, que vous soyez en ville, en zone rurale. Adamou nous appelle de Maroua, dans le nord du Cameroun. Bonjour Adamou.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
Vous avez souhaité nous interpeller pour nous parler de la situation très compliquée d'accès à l'eau dans la région de Maroua, qui est une situation en plus en proie à un conflit.
Exactement. En fait, je dirais que l'accès à l'eau est devenu un problème très sérieux pour les populations vivant à Maroua comme dans les zones rurales au Cameroun. Surtout que le problème de délestage et en France. Alors, comme je suis en train de rédiger un article sur l'accès à l'eau potable dans les zones arides de l'extrême nord Cameroun, j'ai constaté que les populations vivant en milieu rural particulièrement en subissent des conséquences néfastes dues au manque de points d'eau de qualité. Alors, les quelques forages qui existent dans les zones rurales particulièrement ne sont pas seulement un bon édifice. Donc, c'est-à-dire ne sont pas implantés dans des endroits appropriés. Mais les quelques points d'eau qui existent ne satisfont pas également les populations locales puisqu'ils ne sont pas creusés en profondeur pour atteindre la dernière couche d'eau. Alors, les points d'eau sont manuellement creusés, d'où les tuyaux n'atteignent pas la première couche d'eau. Et du coup, l'eau qui sort n'étant pas propre.
L'eau n'est pas potable du coup, parce que pas forée suffisamment en profondeur. Qui finance ces forages dans la région de Maroua, à votre connaissance?
Donc, les forages sont financés généralement par quelques ONG. Par exemple, il y a une ONG qu'on appelle Akamas, une ONG turque.
Adamou, je suis désolée, la ligne téléphonique se dégrade. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et nous avoir appelé de la région de Maroua. Peut-être une précision technique, Thierry Barbotte. Un forage, si on veut que l'eau soit potable, il faut forer en effet beaucoup plus profond et donc il faut investir plus.
Le prix moyen du forage en Afrique, il tourne autour de 12 000 euros et c'est 50 à 60 mètres. Ça, c'est la moyenne qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays subsahariens.
Revenons aux zones urbaines. Dakar, où en principe l'accès à l'eau n'est pas le plus problématique du continent. Une usagère, Clotilde, nous appelle de Dakar.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, Clotilde. On vous écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre niveau à Dakar ?
Alors, moi, j'habite dans un quartier de Dakar.
Lequel ?
Un quartier qui est raccordé à l'eau. J'habite dans le quartier de Wakam.
Oui.
Wakam, voilà. Donc, et depuis, on va dire à peu près un an, nous avons des coupures d'eau. toute la journée. C'est tous les jours, du matin au soir, donc plus de 10 heures par jour. Et voilà, moi, j'ai eu à faire le tour du voisinage pour voir si c'était un problème chez moi ou si c'est vraiment le quartier qui a des soucis. Et effectivement, c'est tout le quartier. Donc, on guette l'eau. Le soir, j'avais des réserves d'eau partout, des bassines, un fût. J'ai contacté la société Seine Eau, qui est la société privée qui est chargée de la gestion et de la distribution de l'eau en zone urbaine.
Filiale de Suez.
Filiale de Suez, donc et qui a le marché depuis janvier.
Alors,
2020.
Est-ce qu'on vous dit que ça a été d'ailleurs une attribution de marché qui a suscité beaucoup de débats et de polémiques? Est-ce qu'on vous dit que c'est un problème technique, de pression, ou bien, et est-ce que du coup, le fait que vous n'ayez pas accès à l'eau, ça diminue au moins votre facture ou pas?
Écoutez, ça ne diminue pas la facture du tout. Peut-être parce qu'on fait des réserves, mais normalement, ça devrait diminuer la facture. Moi, quand j'ai appelé la Seine-Eau, on ne m'a donné aucune information. Ce qu'on m'a dit, c'est que des techniciens vont vous appeler pour passer. Personne ne m'a appelé. Les voisins ici, enfin, ceux qui ont eu à faire aussi des actions, appeler la Seine-Eau, m'ont dit la même chose. Hein. Ils ont appelé, personne n'a rappelé, personne n'est passé. Donc, moi, je pense que c'est un problème de pression, de toute façon, parce que moi, tout récemment, j'ai installé un réservoir d'eau, hein, parce que c'est ce que tout le monde me disait.
Oui, c'est ça, c'est le système D dans ces cas-là qui se met en place. Merci beaucoup, voilà. Clotilde, en tout cas, de nous avoir appelé. En conclusion de cette émission, comment améliorer l'accès à l'eau, que ce soit dans les villes et les zones rurales, même si sur le papier, on a dit que les villes sur le continent africain étaient bien mieux desservies. On voit bien à la lumière de vos témoignages qu'il y a de nombreux problèmes, et pas seulement dans les zones non loties en périphérie, hein, dans les villes. Thierry Barbotte, on a eu un exemple là de l'eau gérée par une entreprise privée, par délégation de services publics. Quel est l'avenir de l'accès à l'eau sur le continent africain?
Ben, pour moi, aujourd'hui, on a financé énormément d'infrastructures, hein, ça a été dit. Il faut que ces infrastructures fonctionnent aujourd'hui. J'ai envie de dire, avant de continuer à investir dans des nouvelles infrastructures, faisons déjà le pari de faire fonctionner ce qui existe. Il en existe beaucoup. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1 million de forages équipés de pompes manuelles en Afrique. Il y en a 500 000 en panne, la moitié. Donc, il faut arriver à mettre en place des solutions qui permettent aux pompes, notamment, de fonctionner dans la durée, parce que le forage, lui, il est là, il est fonctionnel. Oui. C'est parce que la pompe ne marche pas que le point d'eau ne sert à rien. Or, la pompe, c'est une petite partie du prix de l'ensemble.
Si tout le monde, ceci dit, se met à faire des forages dans son propre quartier en ville, ça risque aussi de poser un problème technique. Kevin Goldberg, un mot de conclusion de l'ONG Solidarité Internationale.
Bah, peut-être simplement rappeler un chiffre. Le nombre de personnes qui meurent de maladies hydriques chaque année, c'est 2,6 millions de personnes autour de la planète. Le Covid, jusqu'à présent, c'est 2,7 millions. Si on avait la même attention donnée à la problématique de l'eau que celle qu'on peut connaître aujourd'hui sur la pandémie, je peux vous dire que cet ODD numéro 6 et l'atteinte du droit universel de l'accès universel à l'eau en 2030 serait quelque chose qu'on pourrait envisager. Là, avec le rythme que l'on connaît aujourd'hui, on atteindra cette cible en 23e siècle.
Eh bien voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, mobiliser l'attention de tout le monde sur ce problème de l'accès à l'eau sur le continent africain. Merci à vous tous, Kevin Goldberg, ONG Solidarité Internationale. Merci à Claire Grandadon de l'ONG Water Integrity. Merci au maire de Bobo-Dioulasso, Burkina Bouraïma Sanou. Et merci à Thierry Barbotte d'Odial Solutions. Demain, 7 milliards de voisins. Quand les jeunes quittent le nid familial pour prendre leur envol, enfin l'indépendance, si c'est votre cas, si vous êtes parents de jeunes adultes, racontez-nous comment vous vivez ce départ. Et si vous êtes jeune et que vous partez, bien sûr, vous avez la parole. 33 7 64 45 51 41. À demain, les voisins et les voisines.
Le Prix Théâtre RFI est de retour.
Salut à